Donc, on va commencer avec une définition de la providence selon M. Piper. Vous savez, j'ai fait la session 2. Donc, à la session 2, on avait ramené, après la session 1, évidemment, Yannick a fait la session 1, j'ai fait la session 2, après il y a eu plusieurs autres sessions. La providence de Dieu est sa souveraineté délibérée par laquelle il parviendra à atteindre son but ultime pour l'univers. La providence de Dieu met ses plans à exécution, guide toute chose vers son but ultime et conduit à la consommation finale. Donc, en d'autres mots, si on commence à faire la décortication de la chose, on demandait c'est quoi la volonté de Dieu et la providence? Bien, la volonté de Dieu, c'est le plan et le désir de Dieu. Ça va? Tout le monde est d'accord avec ça? Sa volonté, c'est ce qu'il désire. Tout ce qu'il désire, il va l'accomplir. Il n'y a rien qui lui résiste, et c'est justement le but de cet atelier, de ce cours-là, c'est de voir que sa providence, justement, c'est la manière dont il met en œuvre son plan et qu'il réalise son désir. La volonté de Dieu, c'est ce qu'il veut, tandis que sa providence, c'est la façon dont il va l'accomplir. Les deux travaillent ensemble pour réaliser le plan parfait de Dieu pour le monde et pour chaque individu. Puis on avait vu dans la session 2 que tout ça avait un but pour la célébration de la gloire de sa grâce. Puis aujourd'hui, on va revenir un peu là-dessus. C'est pour célébrer. Dieu veut qu'on soit des célébreux de sa gloire et de sa grâce. Et sa grâce, on ne peut pas parler de sa grâce sans parler de Jésus, sans parler du sacrifice de Christ. Puis ça va faire partie aujourd'hui des éléments qu'on va voir. Aujourd'hui au programme, la mort et la vie au cœur de la providence de Dieu. C'est la section 5, la providence de Dieu qui s'adresse sur la mort et la vie. Et il y a trois chapitres, un bassin de vérité et le cadeau de la naissance. L'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Nous sommes immortels tant que notre travail n'est pas achevé. Fait qu'on pourrait diviser ça en trois choses. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Fait qu'on va comme trois sections un matin. C'est simple, très simple. Si on pouvait assimiler un verset, je vous dirais Job 1, 20, 22, qui vient bien faire le tour de ce qu'on va voir ce matin. Alors Job se leva, déchira son manteau. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Job, Job a goûté la providence des fois difficile de Dieu. Il se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Il s'est mis en position d'adoration et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Tout est là. N'attribua rien d'injuste à Dieu. Et pourtant, Job était l'acteur principal, celui qui a subi. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Job, je vous invite à tourner cette semaine dans vos Bibles. Ça pourrait être votre lecture cette semaine, de voir l'histoire de Job. On peut dire que ça a brassé dans sa vie. Et dans tout ça, il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Fait qu'êtes-vous prêt à parler de vie et de mort? Bien, prions. Seigneur Jésus, ce matin, j'aimerais... On s'approche de toi avec beaucoup de crainte, parce qu'on parle d'un sujet qui est très délicat et très sensible, très émotif, la naissance, la mort, et souvent les terribles souffrances qui viennent avec la mort. Dans notre monde déchu, on est souvent biaisé. Aide-nous ce matin à avoir une vision rétablie avec toi et d'accepter ce qu'on ne peut pas comprendre et te faire confiance en sachant que comme on le dit si bien tantôt, tu es miséricordieux, tu es amour, et on veut surtout faire comme Job, t'attribuer rien d'injuste. Seigneur, enseigne-nous ce matin. Enseigne-nous. Amen. Donc, on va commencer avec l'Éternel a donné. C'est simple, le cadeau de la naissance. On commence avec des mauvais concepts. Vous savez qu'on est dans une terre déchue. Et tout ça a commencé, déchéance, il y avait juste déception qui venait, ça ne marche pas. Toute la déchéance est arrivée à la chute, et une des accroches, des fois on dit ça en publicité, un hook, que Satan a eue, c'est « Vous ne mourrez point ». Il leur dit ça, il dit « Voyons dans Genèse 3, 4, il dit, Dieu sait que vous ne mourrez point, et pourtant Dieu avait dit « Vous mourrez certainement ». Donc déjà en partant, il y a Satan qui est venu, qui fait son œuvre pour nous faire croire quelque part qu'on ne mourra pas ou qu'on trouve ça injuste la mort. Il y a le péché qui est la réaction devant ce concept-là, « Mangeons et buvons car demain nous mourrons ». Vous avez déjà vu ça? Bien, profitons-en à fond parce qu'anyway, puis là après, on peut, il y en a qui élaborent toutes sortes de théories qui ne sont pas bibliques pour voir ce qui va se passer après la mort ou même dans la mort. Puis, il y a notre culture qui, et John Piper cite un petit morceau de la Déclaration d'indépendance des États-Unis qui dit « Nous considérons ces vérités évidentes. Tous les hommes sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouve la vie. » Et là, ben, ça donne une idée qui présuppose que la vie est une espèce de souffle de vie qui dure... du départ à la fin, 60, 80, 100 ans pour les plus vigoureux, puis qu'elle va prendre fin quand le corps meurt, et que entre les deux, c'est mon problème. C'est mes affaires, c'est ma business, et on peut faire tout ce qu'on veut. Ben, on va voir aujourd'hui que dans la Bible, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand Piper résume ces trois chapitres-là, il dit... L'un des objectifs de ce livre et des chapitres 23 à 25 en particulier est d'affirmer que non, ce que vous vous apprêtez à lire n'est pas confus, mais bien biblique. L'idée, c'est d'être biblique. C'est le rocher d'espérance auquel nous nous accrochons lorsque les vagues du désespoir déferlent sur nous. Donc, l'idée, c'est pas si je suis d'accord ou pas avec ce que la Bible enseigne. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce que la Bible enseigne. Qu'est-ce que la Bible dit à ce propos-là? Puis après, ben, tu as toujours le choix de dire « je ne suis pas d'accord », mais au moins tu sauras ce que Dieu en dit, lui. Puis après, ben, ça va être entre toi et lui. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de la mort? Bon, quelques petits échantillons. J'ai mis plusieurs versets, là. « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, une victoire sur la mort. Pour moi, la mort m'est un gain. Paul disait ça. Pour lui, c'était quelque chose qui gagnerait. C'était comme gagner un grand prix. Il dit « la mort est un gain ». C'est quelque chose qui m'enrichit. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ. Car c'est de loin le meilleur. Un autre passage, Matthieu 10, 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et emmener l'âme dans la géhenne. » Un autre passage, Romains 8, 11, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Puis encore, Philippiens 3, 21, « Il transformera le corps de notre humiliation et le rendra semblable à son corps de gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. » Bon, finalement, ben là, c'est juste entre autres parce qu'il y a beaucoup d'autres passages dans la Bible qui parlent de la mort, mais, bon, le micro qui fait des siennes. La mort est un passage aux yeux de la Bible, quand la Bible parle de la mort, elle ne nous parle pas de quelque chose qui est comme un accident de parcours ou quelque chose de comme la fatalité, là. Non, on voit, tu sais, puis pour nous, quand on est chrétien, si tu as donné ta vie à Jésus, que l'Esprit de Christ habite en toi, que tu es né de nouveau, ben tu peux être certain que Christ a vaincu par sa mort et sa résurrection, si bien que si tu le chéris comme un trésor, tu n'as pas à craindre ce qui peut tuer le corps, parce qu'on va mourir et on va être avec lui, on va voir sa gloire, on va savourer son amour, on va sentir la maison, on va rentrer chez nous, jusqu'à ce qu'il revienne sur terre ce jour-là, il va relever notre corps d'entre les morts, il va le rendre glorieux comme le sien, il va renouveler toute chose, toute la création pour en faire notre demeure éternelle et nous fera connaître une plénitude de joie et de délices pour toujours dans la lumière de sa glorieuse présence. C'est le réconfort. Quand on est chrétien, la mort est une porte comme quand on rentre dans un centre d'achat. Denis va me dire, ouais, mais nos portes sont pas terribles. Yeah! Ça reste une porte pareille. La mort n'est qu'une porte. Mais on peut dire qu'il y a deux portes, la porte d'entrée et la porte de sortie. Puis entre les deux, bien, on va voir que tout ça appartient à Dieu. Dieu est le créateur et le maître de chacune des âmes. Premier principe. La vie est un cadeau de Dieu. On va voir ça tantôt. Qu'on parle de la vie spirituelle, comme la nouvelle naissance, ou de la vie naturelle qui commence avec la création de l'âme. C'est pas vrai qu'une vie est sans âme. Bien, il y a des concepts, des fois, qui sont un peu biaisés dans la société, mais Dieu, lui, est le détenteur même de la vie. Jean 17, 2. Le Fils donne cette vie à ceux que le Père a choisis. Tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Il a le pouvoir sur toute chair, le Fils. Pour nous, ceux qui croient en Christ, c'est un cadeau, la vie. On peut dire qu'on a eu... j'arrive au bout de mon souffle. On dit qu'on a eu un double cadeau. C'est comme un double cadeau. Il y a eu le cadeau de la vie quand on est arrivé dans ce monde, et il y a le cadeau de la vie éternelle. Et si on veut le voir d'une autre façon... Puisque Dieu est le détenteur de la vie, et de la vie naturelle et de la vie éternelle, on peut dire qu'on lui appartient en double quand on est chrétien. Je vous mets un verset intéressant. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. 1 Corinthiens 6, 12, 19 à 20. Il s'est donné lui-même pour nous afin de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. Je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu... Ben, c'est un peu comme une base, on parle de principes, là, des choses à comprendre, tu sais. Puis je pense pas qu'il y a personne ici ce matin qui est en opposition avec ça, là, mais c'est bon de se le rappeler. La vie spirituelle va nous offrir cette nouvelle naissance qui est un cadeau incroyable de Dieu, mais la vie naturelle est aussi un grand cadeau de Dieu. Donc, c'est complètement à côté de la traque, comme il dit, Piper dit à côté de la plaque. Si tu n'as pas lu la Bible, puis tu te mets à contester que ton corps n'est juste qu'un mécanisme physique qui vient de la conception entre un spermatozoïde puis une ovule, puis qu'après ça, tout ça n'est que du laisser aller, et on fait bien tout ce qu'on veut, c'est totalement faux. Quand on lit la Bible, on voit que Dieu a à voir avec notre vie, du début jusqu'à la fin, et même dans le ventre de notre mère. Encore quelques petits versets. On en profite, on se paye la traite. Psaume 24, 1. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Psaume 50, 12. Le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Exode 19, 5. Toute la terre est à moi. Job 41, 2. Voici, à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent la terre et tout ce qu'elle renferme. Job 41, ça c'était Deutéronome 10, 14. Job 41, 2. Sous le ciel, tout m'appartient. Donc, Dieu est le créateur et le maître de tout ce que vous voyez autour de vous. C'est... 380 000 personnes qui naissent à chaque jour. Fait qu'hier, il y en avait 380 000. Aujourd'hui, il y en a 380 000. Et demain, il devrait en avoir à peu près comme ça. Et comptez jusqu'à... Avez-vous déjà essayé de compter jusqu'à 380 000? Comme ça, là. C'est long. C'est long. Des fois, on se trompe même. Il faut recommencer. Où je veux en venir, c'est que, imaginez, là, chacune des âmes qui naît est sous la souveraineté gracieuse de Dieu. Chacun a un livre écrit déjà destiné à Dieu. Chacun a un nombre de cheveux compté que Dieu contrôle même chaque cheveu qui va tomber. Chacune des âmes est dans sa main souveraine. Fait qu'écoutez, c'est quelque chose qui nous dépasse. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. Ça nous dépasse. Qui est d'accord avec ça, le matin, là? Ça nous dépasse. Et ça va être une des conclusions qu'on va voir tantôt. Il faut arriver là, à un moment donné. Il y a comme un morceau, là. C'est incompréhensible. Et c'est pas pour rien que Dieu ne l'explique pas tant que ça dans la Bible. On aimerait bien qu'il se justifie, surtout quand il y a de la souffrance avec la mort. Mais non. Non. Deuxième principe, donc, toute vie est un cadeau de Dieu et un cadeau intentionnel. Dieu ne s'est pas contenté d'imaginer le concept de la procréation pour ensuite laisser aller ça sans soutien, sans direction et sans plan pour ses enfants. Ça fait partie aussi du côté « wow » de Dieu. Je ne sais pas combien il est rendu de personnes sur la Terre, 8 milliards à 380 000 par jour qui naissent, et chacune est intentionnellement dirigée par Dieu. La Bible pose ce regard sur toutes les grossesses et toutes les naissances. Chacune d'elles est un cadeau de Dieu. Quand Job a perdu ses enfants, il s'est incliné, il a adoré Dieu, il s'est exclamé « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Dieu a pas fait preuve d'injustice en passant. Quand il a enlevé les enfants de Job, il a repris ce qui lui appartenait. Mais c'est parce que des fois, tu sais, on a l'impression que mes enfants m'appartiennent, là. Mais ce n'est pas la réalité. Puis on va évoluer là, dans cette façon de penser-là. Parce qu'il y a une façon de penser qui vient avec notre conception de la vie et de la mort. Parce que la vie débute quand? Est-ce que la vie débute à la naissance ou certains disent à la procréation, quand M. Spermatozoïde puis Mme Ovule se rencontrent, puis là, ils décident de faire un bébé? Non. Psaume 139, verset 16. Sur ton livre était écrit tous mes jours avant même qu'aucun d'eux n'existe. On parle de l'éternité passée, là. On parle de Dieu, là. On parle d'autre chose. Il faut comme se décoller, puis décoller Dieu comme si c'était un humain super, comme une espèce de super-humain. Non, non. Il est complètement autre chose. Et chacune des 8 milliards de vies était intentionnellement dirigée aujourd'hui depuis l'éternité passée, là. Fait que c'est flabbergasting, là. Que ce soit pour rendre fertile ou stérile, la grossesse, les naissances sont les œuvres de Dieu. Dans la Bible, constamment, on voit des grossesses ou des infertilités qui se produisent et on voit clairement, et encore là, je le répète, le but aujourd'hui, c'est de dire qu'est-ce qu'elle avait dit après ce propos-là. C'est pas du « moi je pense » ou « je suis d'accord » ou « je suis pas d'accord », mais qu'est-ce que la Bible dit à ce propos-là? Par exemple, quand Rachel n'était pas capable de donner d'enfant, Jacob, elle commence à chialer à Jacob, il dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? » Même chose avec Anne dans le livre de Samuel. L'Éternel l'avait rendue stérile. 1 Samuel 1, 5. C'était, en passant, ce que Piper conclut là-dessus, c'était pas des punitions, là. Tu sais, parce que des fois, on a l'impression, « Ah, je ne peux pas avoir d'enfant, donc c'est une punition. » C'était la réalité qui était un morceau dans son plan qui nous dépasse, là. Et là, ben, il n'y a pas tant d'explications, et on aimerait en avoir, mais il y en a 385 000 qui naissent par jour, et il y en a qui ne naissent pas. Et tout ça est dans la main souveraine de Dieu. 1 Samuel 2, versets 5 et 6. Ceux qui étaient rassasiés se vendent pour du pain, mais ceux qui étaient affamés ont du répit. Bon. La femme stérile accouche 7 fois, mais celle qui avait beaucoup de fils dépérit. Le Seigneur fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. On pourrait dire donc que c'est ça qui fait que Dieu est Dieu, d'une certaine façon. Je pense que, et c'est Piper qui parle, je pense qu'être Dieu signifie fondamentalement que Dieu a toute autorité, tout pouvoir pour donner la vie et pour la reprendre. Deutéronome 32, verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, qu'il n'y a pas de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Les prophètes en parlent constamment. Nul ne peut délivrer de sa main. C'est Dieu et seulement à Dieu qu'appartient d'être le maître absolu de la vie et de la mort. J'ai un autre verset, le 2 Rois 5, 7. Joram qui déchire ses vêtements et dit, « Est-ce que je suis Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? » C'est la réalité. Ce n'est pas des mécanismes extérieures à la providence de Dieu qui font qu'une naissance arrive sur la terre. C'est dans sa souveraineté et dans sa volonté qu'une personne arrive dans ce monde. Dieu occupe toujours une place prépondérante dans cette vision des choses-là. Quand Paul arrive avec les Grecs, qui étaient des gens, des philosophes là, qui réfléchissaient, ils essayaient de comprendre le sens de la vie. Et là, il leur dit, c'est acte 17, Dieu a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Mais aussi, ce même Dieu ne cesse de maintenir son rôle de créateur existant par lui-même et autosuffisant, et ce, à chaque instant. Et comment il dit ça? Il dit, il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui a donné la vie, le souffle à toute chose. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Mais c'est puissant, ça. Parce que déjà, la vie, c'est mystérieux, là. Tu sais, on a du monde ici qui travaille en sciences, en bio, là, puis qui font de la recherche, puis tout. Mais le concept même de la vie, on n'arrive pas à comprendre c'est quoi. Bien là, on a la réponse. La vie, c'est Dieu. La vie, le mouvement, en grec, c'est énergos, c'est l'énergie. Chaque atome qui spinne dans ton corps, il y en a des milliards de milliards, bien c'est sous la direction divine de Dieu. C'est lui l'énergie, parce qu'on n'arrive pas non plus à comprendre. Comment ça bouge tout ça? Bien voilà, la Bible nous donne la réponse. Et l'être, l'existence, juste l'idée d'exister, c'est sous la main souveraine de Dieu. Pas pour rien que David, dans le psaume 139, dit « Une science aussi élevée au-delà de mes capacités. » On ne peut pas faire autrement que se mettre à adorer Dieu quand on arrive à ce niveau-là. C'est trop gros pour notre petite tête. Mais en fait, c'est qu'on n'a pas été créé pour concevoir ce genre de choses-là. On a été créé juste pour jouir de Dieu. Pas pour essayer de le comprendre. Il est incompréhensible, là. Ce qu'on comprend, c'est ce qu'il veut bien nous faire comprendre de lui. Même quand il parle d'une descendance, et c'est pour ça que quand on arrive comme ça et qu'il donne des promesses, bien, il promet ce qu'il peut faire et il peut tout faire du côté de la descendance. Que, bon, on a ici, quand l'Éternel... Quand Dieu promet à Abraham de lui faire une descendance qui va être nombreuse comme les étoiles puis le sable, est-ce que Dieu est en train de faire de la figurative puis de dire « Oh, ça va être beau dans la Bible, ça, quand ils vont écrire du sable et puis tout ça? » Non, non. Il dit ce qu'il est capable d'accomplir et il va l'exécuter. Il n'est pas juste en train de faire une prophétie en l'air, là. Il est en train de dire « Voici ce que je vais faire. » Je te le dis d'avance parce que comme ça, tu vas dire « Wow, c'est vraiment Dieu. » L'Éternel dit à Abraham, « Y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour l'Éternel? » Question rhétorique. Dieu est Dieu et rien ne peut l'empêcher de donner la vie où il veut, même quand il n'y a pas de facteur humain. On va donner d'autres exemples. Par exemple, Isaac. Hein, l'Éternel apparu à Isaac et dit « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. » Jacob, la même chose. Ruth. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Permis à Ruth. David, Salomon répondit, tu as conservé cette grande bienveillance envers David et tu lui as donné un fils qui est assis sur son... Tu lui as donné un fils, comme on le voit aujourd'hui. Jean-Baptiste, la même chose. Il n'y a aucune naissance qui est impossible à Dieu. À cette étape-ci là, de l'atelier, vous devriez être convaincu. Aucune naissance. Et je dirais le clou final dans le cercueil du doute. Il s'appelle Jésus. Même pas besoin d'un spermatozoïde pour faire un bébé. That's it! Ça, c'est quelque chose. La naissance de Jésus illustre la souveraineté absolue de Dieu sur les sphères naturelles et surnaturelles qui réagissent tout le processus de la naissance. Luc 1, 35, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut couvrira de son ombre. » Te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Dieu décide du début et de la fin de la vie. Et dans la Bible, c'est toujours dans le cadre de la providence qu'on voit le lien avec la naissance. Il n'y a pas d'exception, là. C'est lui qui décide quand la vie commence, et on va voir, c'est lui aussi qui décide quand elle se termine. J'aime ce passage-là, Job 34, 15, 14 et 15. S'il reprenait son esprit et son souffle, toute créature expirerait d'un seul coup et l'homme retournerait à la poussière. C'est convaincant, là. T'sais, ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, je suis l'Éternel. L'Éternel a donné, Job 1, 21. L'Éternel a ôté. Conclusion? Amen. Amen. Ben, je n'ai plus besoin de continuer l'atelier. Tout est clair. C'est l'architecte de la vie. Et ça fait partie d'un plan qui est au-delà de notre conception. Dieu est quand même glorieux de nous en donner des petits bouts, là. Il est gentil. Il pourrait juste dire, fais ce que je te dis. Mais il veut que notre obéissance soit fondée dans notre foi, dans notre confiance. On a le choix. Ou c'est l'obéissance, ou c'est la confiance. Mais Dieu préfère de loin la confiance. Donc, l'Éternel a repris. Ouais, on va parler de mort maintenant. C'est bon pour la naissance? C'est clair? C'est clair? Autant quand ma fille vient d'avoir son petit bébé, il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Tout ça fait partie d'un plan qui nous dépasse. Et je sais que c'est dur. C'est vraiment difficile. Dieu n'est pas insensible à vos pleurs, n'est pas insensible au désespoir. Dieu nous dit seulement, fais-moi confiance. Et Dieu a les bras grands ouverts. Il est près de ceux qui souffrent. C'est une constante dans la Bible. Il faut simplement se jeter dans ses bras. Et des fois, c'est difficile, en sachant qu'il est aussi la cause de notre souffrance. On se dit non, non, non. Mais il y a une promesse intéressante. Un jour, il n'y aura plus de souffrance, plus de pleurs, plus de larmes. Et la fenêtre entre la naissance et la mort, c'est une fenêtre. Il y a une éternité que Dieu nous accorde après, dans sa présence glorieuse, qui va faire que tout ça sera peut-être pas compris, mais va être accepté. Et ça, c'est glorieux. C'est merveilleux. Donc, l'Éternel a repris 150 morts chaque jour. On va dire qu'on est en déficit, là. Ça veut dire qu'il y en a plus qui en meurent. 150 000 morts chaque jour. Il y en avait 380 qui naissent, 150 000 qui meurent à chaque jour. Bon, certains petits comiques vont dire les deux seules choses certaines dans la vie, c'est les impôts et la mort. On ne parlera pas des impôts aujourd'hui. Une fois par année, c'est suffisant. Qu'est-ce que la mort? L'objectif ultime de la mort et de sa défaite. Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et on parle des clés de la mort. Qui entre et qui entre pas, qui sort? Grâce à sa mort et à sa résurrection, Christ détient dans sa main les clés de la vie éternelle et de la mort. On peut dire gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est pas... J'aime comment... Je vais vous lire ce qui marque dans le livre. La gloire du Fils de Dieu ne réside pas dans une victoire sur la mort après qu'elle soit entrée par effraction dans son corps et que ce soit saisi de lui. Pas tout. La mort ne l'a pas enlevé, pas plus que ce qui fait éruption dans ses plans. On pourrait dire que Jésus, c'est un peu comme le Chuck Norris de la mort. Non, mais tu sais, vous savez les histoires là, qu'on parle de Chuck Norris, il est toujours gagnant. Là. Genre, Chuck Norris est rentré chez McDonald's, il a demandé un Whopper, puis ils en ont fait un. Tu sais, ce genre d'affaires-là, des choses impossibles. Là. Mais Chuck Norris l'a fait tout le temps. Mais Jésus s'est saisi de la mort. La mort a servi ses plans. La mort était une réalité. et il l'a détruite, non pas en échappant à son intrusion, mais en s'introduisant lui-même dans la mort et en la tuant de l'intérieur avant d'en ressortir victorieux. Le seul être humain qui est mort sans péché. La mort ne pouvait pas le retenir. Il est allé dans la mort et il l'a fait éclater. Il a été volé les clés. Il a pris les clés de force et il est devenu sorti de là victorieux, glorieux. C'est Jésus. Ce n'était pas un accident. Et ce passage-là est quelque chose. Jean 10, versets 17 et 18. Je donne ma vie afin de la reprendre. C'est volontaire. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir. C'est puissant, là. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la reprendre. Je fais ce que je veux. C'est fou. Vaincre la mort en immolant l'agneau de Dieu pour les pécheurs n'était pas un plan B. C'était le plan A. Et on l'a vu au début de notre série du co-providence. C'était pas un accident, cette louange de la gloire de Christ parfaitement manifestée dans sa mort était le but ultime de tout. C'est le plan de Dieu depuis toute éternité, le but de toute la providence de Dieu. Mais on va faire une petite pause. Non, partez pas, là. La section dans le livre s'appelle « L'écœurante réalité de la mort ». C'est quand même pas des petits mots, là. Parce que... Il veut se pousser. Je vais le faire tenir avec mes lunettes. Donc, tout a été créé par lui et pour lui, Colossiens 1:16. Mais, je cite encore Mr. Piper, « C'est en tremblant que je rédige ce chapitre, car je ne veux surtout pas prendre à la légère la terrible expérience de la mort qu'ont des millions de personnes. » Bon, j'ai un ami qui s'appelle Richard et qui est mort. Richard, à un moment donné, était chez eux un dimanche soir. Il s'est couché. Hein? Il s'est couché. Et sa femme témoignait que, dans le courant de la nuit, à un moment donné, senti bouger un peu. Bon, je ne sais pas trop ce qui s'est passé à ce moment-là, mais ce qu'on sait, c'est que le lendemain, il fallait qu'elle au garage changer ses pneus. C'est à peu près dans ce temps-ci. Puis, il était mort. Comme ça. Joël, mon garçon, quand il a appris ça, il dit, waouh, c'est fou, hein? Tu t'endors, puis tu te réveilles avec Jésus. C'est une mort douce, c'est une belle mort, c'est une mort qu'on souhaite à tout le monde. C'est une mort paisible. Tu t'endors, tu te réveilles. Ah, Jésus! C'est pas toujours le cas. Il y a mon neveu William qui est mort. 18 ans, 19 ans, 3 rémissions. On l'a vu maigrir, réengraisser. Première rémission, la joie. Deuxième rémission, la joie. Et finalement, la mort l'a emporté. Il était gros comme un chico. Il souffrait atrocement. La chimio l'avait vraiment affaibli et amaigri. Et il est mort. Sans explication. Le petit aurait aimé qu'on le baptise. Mais il était trop malade. Oui. Pour me préparer, je lisais sur le deuil cette semaine. C'est un acte violent, la mort. C'est violent pour ceux qui restent. C'est violent parce que c'est pas normal. On l'a dans nos gènes, on sait que ça n'aurait pas dû arriver. Mais c'est la vie. C'est plate à dire. C'est dur à dire. La mort fait partie de la vie. Vous savez, on y échappera pas. À moins que Jésus revienne avant, mais si la tendance se maintient, il y a des bonnes chances qu'on meure. Que notre corps expire. Je suis inscrit à la Voix des martyrs et Porte ouverte. Deux organismes chrétiens qui aident l'Église persécutée. Et je vous encourage profondément et fortement à vous inscrire à ces lettres de nouvelles-là. parce que ça change énormément nos perspectives. Aujourd'hui, c'est, bon, dans l'organisation, on l'appelle, c'est le dimanche de l'Église persécutée. Et quand on voit ces gens qui souffrent, qui sont martyrisés, qui sont torturés, emprisonnés, tout ce que vous pouvez imaginer, ils le subissent. Et il n'y a pas une fois que j'ai pas vu quelqu'un qui disait « c'est dur ». Mais chaque fois, il disait « Dieu m'a donné la grâce de passer au travers ». Et j'ai pu parler à mes geôliers, j'ai pu pour ceux qui ont survécu. Il y en a qui, après 20 ans de prison, retrouvent leurs enfants comme des étrangers et continuent à prêcher l'Évangile. C'est surnaturel. C'est pas humain. Ils ont fait de la mort une acceptation. Souvent, c'est la souffrance qui fait qu'on est un peu réticent et qu'on se met à traiter Dieu d'injuste, littéralement. Et moi, je trouve ça toujours, ça m'attriste quand j'entends d'autres chrétiens qui disent « j'accepte pas ça ». Puis non, Dieu peut pas être de même. Puis, parce que c'est compliqué dans le sens qu'il y a la grande tristesse et le désarroi, mais en même temps, il y a Dieu aussi. Puis si qu'est-ce qui caractérise Dieu? Sa miséricorde, sa bienveillance, son amour. C'est pas un sadique. C'est pas une espèce de sado-maso qui essaye de te... Il dit, ouais, moi j'en ai créé 8 milliards cette année. Ils vont payer. Pas partout. Dieu est juste. Et dans son plan, il faut juste admettre qu'on ne comprend pas tout. Et la souffrance fait partie de la vie sur notre planète. Nous, ici, là, on est au Canada, au Québec, et on ne comprend pas tellement ce que c'est que la souffrance. En tout cas, ce qu'on dit qu'on connaît de la souffrance, c'est rien à voir à côté de ce que d'autres dans le monde souffrent. Par souffrance physique, souffrance mentale, souffrance psychologique. Ce qu'on doit comprendre comme principe, c'est que toute vie a été prise au moment de la chute. C'est une condamnation. Chaque humain vit sous la condamnation de la mort. Tous meurent en Adam. La vie et la mort font partie de ce qu'on expérimente à chaque jour. Le jour où tu en mangeras, Genèse 2,17, le jour où tu en mangeras, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. C'est ce que Dieu avait dit. Tu sais, quand Dieu dit « tu vas mourir », on a-tu vraiment besoin d'y demander « prouve-le ». Mais si Dieu te dit « tu vas mourir certainement », c'est parce qu'on ne reviendra pas en arrière, là. La mort règne sur les personnes âgées. La mort règne sur les nourrissons. Il y a des bébés qui meurent dans le ventre de leur maman. Il y a des riches qui meurent. Il y a des pauvres qui meurent. Il y a des hommes qui meurent. Il y a des femmes qui meurent. Toute langue, toute nation, toute confession, c'est la grande justice sociale. La Bible nous enseigne que tous les êtres humains meurent à cause du jugement de Dieu contre le péché. C'est pas comme une maladie que ce serait propagé là, comme un virus à partir d'Adam, puis que là, on est comme coincé avec, puis que le sang de la croix là, vient nous donner une espèce de shot, comme une espèce de vaccin. Ça marche pas comme ça. On est condamné depuis la chute. C'est pas une surprise de mourir. C'est un aspect de la nature. C'est le jugement de Dieu. Il y en a qui vont penser que la mort ne faisait pas partie du plan initial de Dieu pour l'humanité. Oui, il y a même des chrétiens qui pensent ça. Prenez le temps de réfléchir, s'il vous plaît, quand vous lancez des affaires de même. Tu sais, c'est comme si de dire une affaire de même, c'est de dire que la mort s'est introduite dans la création contre la volonté de Dieu. Que Dieu, finalement, a été forcé, sous la contrainte ou de cette force extérieure-là, de composer avec cet intrus-là qui n'est pas désiré et que finalement la mort a été imposée à Dieu et c'était son jugement. Ben voyons. Ça voudrait dire quelque part que notre Dieu, c'est la mort. C'est pas Dieu. Mais non, c'était déjà dans le plan de match au départ. Et c'est là qu'il y a des morceaux qu'on ne comprend pas. Ça demande de l'humilité. De l'humilité. T'sais, on ne sort pas Egon tout de suite. La mort est un ennemi, c'est clair. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. 1 Corinthiens 15, 26. Mais la mort, c'est le jugement dans la main de Dieu. La mort est plusieurs facettes. Ça peut être la mort démoniaque, on le voit dans Job, hein? Satan et Dieu, puis là, ben, et ça va dans des situations naturelles. Et oui, il y a toutes sortes de façons de mourir et toutes sortes de façons de souffrir. Job est un beau livre pour justement nous aider à garder l'esprit pur à travers les choses qui peuvent nous arriver. Il a tout goûté. Il a tout goûté. Et finalement, malgré ça, à la fin, que ton nom soit béni. En tout cela, Job ne pécha point. Je vais vous amener aussi quelque part. Parce qu'il faut élargir notre vision des droits de Dieu sur toute vie. Deutéronome 32, 39, « Je fais vivre et je fais mourir. » Quand Dieu fait mourir, il ne fait pas juste exposer sa puissance, c'est son droit, il le révèle, il agit comme ça. On ne devrait pas douter de sa bienveillance quand Dieu fait mourir. Et même quand il y a de la souffrance, la vie n'est pas un droit inaliénable, parce que là, c'est une des réflexions que le livre nous amène. Est-ce que la vie est un droit inaliénable? Ben non, mais dans beaucoup de personnes, il y a un peu ça. Hein? On est insulté parce que Dieu ose venir déranger notre routine et notre confort, autant dans la souffrance que dans la mort. Mais pour la Bible, c'est pas un droit inaliénable. Aucun, entre autres, par exemple, un des exemples, quand on voit « tu ne tueras point », Exode 20, 13, nous démontre quelque part que même ta vie est précieuse et ce n'est pas à un autre de la prendre, mais seulement qu'à Dieu. Ça nous montre la préciosité de la vie par rapport à Dieu. Il est le seul qui a le droit de regard, de vie et de mort sur chacun de nous. Il faut un moment donné s'enlever ça de l'esprit, de dire non, non, c'est mon corps, c'est ma vie. Non, non. Surtout si t'es chrétien. Si t'es chrétien, ça, c'est en double. Tu ne t'appartiens plus. Eh bien, moi qui pensais avoir trop de temps. Dieu n'agit jamais par caprice, au hasard ou sans but. S'il permet quelque chose, c'est qu'il a un plan. Et c'est précisément cette réalité qui suscite de la colère. Je cite John Piper. Oui, c'est là que ça se passe. On arrive, que ce soit pour le déluge, hein, les premiers-nés pendant la Pâque, toutes les nations, quand tu vas détruire cette ville-là, tu sais, on voit ça, puis là, nous, on est là, on est un peu horrifiés. Il y a des exemples qui donnent, 185 000 personnes ont été prises en une nuit. Même Israël a goûté à la colère de Dieu, avec des milliers de personnes qui sont mortes, et pas juste les peuples, il y a aussi les gens, un par un, que ce soit le roi Jéroboam, Musi, je les nomme rapidement, mais vous pourrez lire vos notes là, que je vous ai envoyées. Ananias et Saphira, ça vous dit quelque chose? Une petite menterie, pouf, ils sont morts. Hérode, qui n'a pas rendu gloire à Dieu, au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, il expira rongé par les vers. Arrêtons de mettre Dieu sur le banc des accusés. Si Dieu est miséricordieux, arrêtons de dire, mais pourquoi tu fais souffrir? J'aimerais vous rappeler quelque chose. Regardez-là, là. Regardez là ce qui est là, là. On a mis une croix, et autour, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Notre Dieu, que souvent on accuse d'être injuste avec la souffrance, s'il y en a bien un qui a goûté à la coupe, c'est lui. C'est lui. Et ça n'a pas été facile dans le jardin. Jésus, qui était quand même quelqu'un, là, était angoissé, il pissait le sang vers le front. Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non ma volonté, mais la tienne. La crucifixion était un des supplices les plus abominables qu'on a connus. C'était... on n'arrive pas à imaginer. Juste d'avoir une couronne d'épines sur la tête. Là. Moi, j'ai refait une chaise, là, me suis rentré une écharpe dans le doigt. Aïe, aïe, c'est fatigant. Aïe, aïe, ça fait mal. La couronne d'épines. Et puis, on y a enfoncé, là. Puis après, le flagellum, on y arrachait des bouts de peau. Je n'irai pas là, là. On ne refera pas Mel Gibson aujourd'hui. Mais c'était affreux, épouvantable. C'était horrible. Si vous voulez connaître quelqu'un qui a connu la souffrance, parlez à Jésus. Si vous pensez que Jésus peut comprendre la souffrance, vous avez totalement raison. Puis si tu souffres, tu peux être certain qu'il y en a au moins un dans l'univers qui comprend puis qui peut entendre tes prières. C'est Jésus. C'est Jésus. Il l'a vécu et il l'a vaincu pour que toi, tu puisses avoir la rédemption, pouvoir te saisir de lui. Fait qu'entre les deux, peut-être que, par exemple, je pense à Pierre, Jean 21, 18, 19, il dit, quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, lui dit, suis-moi. On oublie ce volet-là de la souffrance. Pierre a été crucifié la tête en bas, selon la tradition. Fait que c'est comme autre chose. Je n'arrive pas à imaginer. Je veux dire, je me penche, je me lève, j'ai la tête qui tourne. Fait que t'imagines. Une bonne question, et c'est le dernier morceau aujourd'hui pour notre petit rallye de la vie et de la mort. Que son nom soit béni. Mieux vaut être ôté par Dieu que par Satan ou la fatalité. C'est-à-dire que, de toute façon, ça va arriver. Fait que tu résistes, que tu sois en colère ou en dépression, je ne sais pas, tu sais, que tu refuses la réalité, tu ne pourras pas y échapper. Vaut mieux que tu l'acceptes avec sérénité et que tu dises, wow, OK, à travers cette mort-là, je vais glorifier Dieu. Je parle pour toi, là. On parle pour chacun de nous ici. On est rendu là, là. Hein? À quel pouvoir préférez-vous livrer votre vie et votre mort? Je n'ai pas dit que c'était plus facile. Je parle d'une lumière au bout du tunnel. Entre les mains de qui tu préfères souffrir? Comme Pierre, par quelle mort il glorifierait Dieu? Je vais vous lire l'Apocalypse, Apocalypse 6-10. Les martyrs, sous l'autel dans le ciel, crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit accompli, complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Un exemple d'un missionnaire, c'est Henry Martin. Un extrait de son journal, 1812. Il semblerait, selon toute vraisemblance, que cette année soit la plus périlleuse de toutes celles que j'ai connues jusqu'à maintenant. Mais si je parviens à terminer ma traduction du Nouveau Testament en langue perse, alors ma vie après cet accomplissement sera de peu d'importance. Et écoutez ça. Que je vive ou que je meure, pourvu que Christ soit magnifié au travers moi. S'il a du travail pour moi, je ne peux pas mourir. Wow! Souffrir et mourir pour Christ. Peu importe ce qui arrive. Des fois, on a l'impression que souffrir pour Christ, ça prend un geôlier, des outils de torture, puis toute la tralala. Mais souffrir pour Christ, ça peut être une douleur chronique. Ça peut être une grossesse qui n'arrive pas. Ça peut être mettre notre attitude à travers la souffrance et le moyen que Dieu veut choisir pour qu'on puisse le glorifier. Et on a un réconfort auprès de lui à condition de le vouloir. C'est ça la clé. La clé, c'est de s'abandonner. Et, bon, comme disait Jim Elliot. Écoutez ça. Il n'est pas fou celui qui le donne. Écoutez ça, je vais le dire comme faux. Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut garder. Hein, on parle de quoi, là? Ma vie, mon confort, tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Bien, il n'est pas fou celui qui donne à Dieu tout ce qu'il ne peut garder pour obtenir ce qu'il ne pourra jamais perdre. Mettez ça sur votre frigidaire. Jésus connaît la souffrance. Jésus a vécu la souffrance et Jésus est sorti glorieux. Glorieux, il est vivant. Il n'est pas juste dans un ciel obscur. Il est en nous, en chacun de nous. Donc, je dirais que trois principes ou trois choses à retenir avant de passer à quelques questions si vous en avez. Premièrement, accroche-toi à ses promesses. Lis-la ta Bible. Lis-la, c'est notre base. Et accroche-toi à ses promesses. Accroche-toi à ce qu'il est. Aie l'humilité, deuxièmement, d'admettre ton ignorance. Il est miséricorde. Il est amour. Je ne comprends pas, mais il est ce qu'il est. Il m'aime. Il a connu la souffrance. Il faut avoir l'humilité simplement d'admettre notre ignorance. Puis finalement, prends la décision d'avoir la joie de participer à sa gloire, même au-delà de tes souffrances. Et ici, il y en a peut-être qui ne souffriront jamais ou qui vont souffrir comme « Oh, j'ai mangé des chips, j'ai mal au ventre. » Ça va être comme notre plus haut niveau de souffrance. D'autres vont souffrir d'une façon épouvantable. Savez-vous une des beautés? Si quelqu'un pleure, on pleure avec lui. Si quelqu'un rit, on rit avec lui. On chante des cantiques. Visitons les gens qui sont à l'hôpital. Soyons des outils de réconfort. C'est une autre façon d'exposer la gloire de Dieu à travers la souffrance, à travers la mort. Parce que s'il y a bien une chose qu'on ne pourra pas changer, c'est le plan de Dieu. Fait qu'aussi bien plonger dedans avec joie, avec humilité, puis avec reconnaissance, en s'accrochant sur ses promesses. Amen. Je prie, puis on va avoir 3 minutes de questions. Seigneur Jésus, merci. Aide-nous à assimiler tous ces concepts parce qu'ils sont contre-intuitifs pour notre chair. Notre chair, elle ne veut pas souffrir et elle veut tout contrôler. Mais toi, Seigneur, ton plan est parfait et on veut y faire confiance. Merci, Jésus, pour ta parole. Amen. 3 minutes de questions. Avez-vous des questions? Oui, madame. Oui, monsieur.
Pour m'aider à mieux comprendre la phrase qui dit là, que tu viens de dire, il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour obtenir ce qu'il ne peut perdre. Une couple d'exemples pour mieux comprendre.
Par exemple, ce que je ne peux pas garder, là, c'est bien ma vie. Il y a des choses que je ne peux pas garder. Mes enfants. Mes enfants, on a l'impression qu'ils nous appartiennent. Là, j'ai des petits-enfants. Ben, moi, j'ai décidé de les donner à Dieu. J'ai décidé aussi de donner à Dieu, j'y ai repassé dernièrement, je suis allé passer des petites prises de sang, je me disais, écoute, j'ai un cancer. J'ai décidé de donner à Dieu mon confort aussi. C'est quelque chose de toute façon que je ne peux pas garder. J'ai l'impression que ça m'appartient, mais non. Ma santé, ça ne m'appartient pas. Ma vie m'appartient.
Désobéissance, un refus de souffrir ou... En tout cas, qu'est-ce que c'est? Et peut-être un second point que je n'ai pas tout à fait compris, c'est au début... C'était que Dieu accomplit sa volonté. Dieu fait sa volonté. Mais est-ce que c'est toujours le cas, que Dieu réalise toujours sa volonté?
Bien, la deuxième question, c'est oui. Dieu accomplit toujours sa volonté. Et qu'on comprenne ou pas, ça n'a pas d'importance. Dans le sens que ce que Dieu veut, c'est beaucoup plus la confiance que la compréhension. Si on y fait suffisamment confiance, parce que sa volonté s'accomplit toujours. Mais quand tu parles, par exemple, de... Que ce soit, j'ai réfléchi à ça cette semaine, l'avortement, l'aide médicale à mourir, le suicide. Tu sais, est-ce que c'est un péché? Ben, je dirais, ce que j'ai réalisé en réfléchissant, ce que j'appelle, il y a l'agenda naturel. L'agenda naturel, c'est si, mettons, il n'y a aucune intervention humaine, comment ça irait la vie? Et là, à partir de là, on peut débattre énormément. On pourrait passer une autre heure et deux heures même à parler de tous les impacts de, par exemple, de l'aide médicale à mourir. Mais une chose est certaine, c'est que si quelqu'un meurt, ça faisait partie aussi de sa providence, que ce soit d'une façon ou d'une autre. La bonne question, c'est si j'ai participé avec l'aide médicale à mourir, est-ce que j'ai contrecarré quelque part ce que Dieu me demandait de moi? Bien, si, mettons, j'étais diagnostiqué avec un cancer qui m'amenait vers des souffrances extrêmes, je prendrais la décision d'aller jusqu'au bout de l'agenda que Dieu me propose. Parce que, à cause des témoignages des autres, les gens qui ont passé à travers les derniers moments de la vie, et je suis certain que vous êtes témoins de ça, ont la plupart, quand ils sont chrétiens, vécu une grâce particulière et ils ont été des témoins puissants de la grandeur de Dieu autour d'eux dans ces derniers moments jusqu'au dernier souffle. Donc, je prendrai la décision de vivre jusqu'au bout l'agenda que Dieu me propose. Pour sa gloire, pour qu'il soit glorifié à travers chacune de mes paroles, chacune de mes actions. Qui sait? Peut-être que c'est comme ça que Dieu veut amener une des infirmières du bloc d'oncologie. Puis moi, ben, je veux que Dieu m'utilise jusqu'au dernier souffle, jusqu'à la dernière page du livre qu'il a écrit. Ça serait bien, à un moment donné, qu'on ait une espèce d'atelier sur ces cas d'exception-là, on va dire ça, même pas d'exception, mais parce qu'il y a beaucoup à dire par rapport à l'aide médicale à mourir, mais là, je vous ai partagé ce que ma réflexion, mais il y a beaucoup plus à dire là-dessus. Ce sera sûrement le cas de quelque chose d'autre à un moment donné. Faites-vous-en pas. Il y avait eu un pub socratique là-dessus à un moment donné. C'était bien intéressant. On présentait les deux côtés et tout ça. Mais bon, pour l'instant, il y a une célébration qui s'en vient. Une belle célébration avec un sujet pas simple et pas facile. Fait que j'ai hâte d'entendre Yannick nous amener la parole et qu'est-ce que Dieu va dire à travers lui. On va louer Dieu. On va se célébrer sa gloire, hein? C'est pour ça qu'on est là. On est ici aujourd'hui pour célébrer la grandeur, la gloire de sa grâce. C'est-à-dire sa grâce qui s'exprime à la croix, puis nous, on veut célébrer sa gloire. Amen. Je prie, puis bon service. Merci Seigneur d'être en contrôle de notre naissance, de notre mort, et même des souffrances et tout ce qui est entre les deux. Seigneur Jésus, oui, c'est dur. Mais merci de nous avoir ouvert le chemin, de nous avoir donné l'exemple puissant de toi souffrant sur la croix, battu, abandonné. Ben, c'est notre réconfort. On sait que tu peux entendre et comprendre. Seigneur, chasse le doute de notre esprit. Garde-nous simples comme des enfants. Qu'on arrête de poser des questions et qu'on fasse juste goûter à tes grands bras chaleureux qui nous entourent. Merci Seigneur. Merci. Et on est hâte de te voir. On a hâte. Amen.